Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Un crime très ordinaire aujourd'hui. Et pour moi, c'est le plus passionnant des crimes. Parce que c'est celui auquel on peut s'identifier. Vous verrez. Voici l'enquête sur l'assassinat de Jean-Luc Thiébaut en 2014 en Haute-Savoie. Je débrieferai cette histoire tout à l'heure avec maître Anna Belen Iglesias du barreau d'Aix-en-Provence. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Est-ce qu'un type qui est charpentier, qui a un chantier en cours, peut disparaître comme ça du jour au lendemain sans prévenir? Pour aller courir la gueuse ou pour aller se mettre les doigts de pied en éventail à la plage? C'est peu probable. Surtout que le type dont je vous parle, qui s'appelle Jean-Luc Thiébaut et qui est donc charpentier à La Tour en Haute-Savoie, est un type très sérieux, très sérieux. S'il avait dû interrompre son chantier pour une raison ou pour une autre, il l'aurait dit. Il aurait prévenu, c'est sûr. Aucun doute là-dessus. Et pourtant, on est en juin 2014 et ça fait 8 jours que le chantier de Jean-Luc est en plan, les poutres et les tuiles en vrac. 8 jours qu'il ne répond plus au téléphone, et d'ailleurs sa messagerie est pleine. C'est son ex-femme, Patricia, qui s'en inquiète la première. Au bout de 8 jours, elle appelle les gendarmes de Haute-Savoie.
C'est vraiment pas le genre d'homme à partir sur un coup de tête. Il m'aurait prévenu, forcément. On a quand même 3 gamins en commun, mais on s'entend plutôt bien, il m'aurait prévenu. Vous pourriez aller voir chez lui, à La Tour?
Bien sûr qu'ils peuvent aller voir. Et ils y vont. Sa femme nous a dit qu'il avait une BMW. Hein. Bon, a priori, elle n'est pas là. Et après, les gendarmes entrent dans la maison. S'il est parti, c'est de manière précipitée. Hein. Regarde, ses valises sont là. Son placard à en juger au premier coup d'œil, comme ça il est plein, à craquer. Ah tiens, la vaisselle n'est pas faite. Et regarde les casseroles. Sur le gaz, elles sont pleines. Voyons, regarde le frigo. Il est plein. Ah ça, en revanche, c'est plus inquiétant.
Une bouteille de vin est fracassée sur le sol. Les gendarmes rappellent alors Patricia, l'ex-femme du disparu, et ils lui racontent la vaisselle pas faite, les casseroles pleines.
Vous me dites qu'il n'a pas fait la vaisselle? Ah ça, je peux vous dire que c'est inquiétant, parce que Jean-Luc, il est maniaque, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas du tout le gars à laisser la vaisselle dans l'évier sans la faire. Hein.
Eh ben moi non plus. Si je disparais un jour et qu'il y a de la vaisselle sale dans mon évier, c'est qu'il y a un souci. Bref, tout ça est très inquiétant. Et ça l'est encore plus quand les gendarmes reçoivent un appel de la belle-sœur de Jean-Luc Thiébaut.
La dernière fois que j'ai eu Jean-Luc au téléphone, c'était il y a un peu plus de 8 jours, le 27 mai, un peu après 8 heures du soir. On était en train de discuter, et là j'ai clairement entendu qu'on sonnait à la porte. Et là, il m'a dit, je dois te laisser, je te rappelle tout à l'heure, je vais voir qui c'est. Et il m'a jamais rappelé. Et depuis, il répond à personne.
Le procureur ouvre immédiatement une enquête pour disparition inquiétante et il la confie à la brigade de recherche de Bonneville, en Haute-Savoie, qui commence par faire l'entourage, comme on dit. C'est-à-dire à interroger les amis, les copains, les proches, quoi. À votre avis, il a pu être enlevé, il pourrait être séquestré quelque part? Jean-Luc? Oh non, non, je crois pas. Enfin, si vous le voyez, c'est une montagne de muscles, hein, le mec. C'est un gars qui passe la journée sur les toits avec les tuiles sur l'épaule, vous voyez le genre. C'est pas du tout le genre à se laisser emmerder. C'est pour ça, moi, que... Franchement, ça m'inquiète beaucoup, sa disparition. Et puis c'est un biker. Il a une Harley Davidson, vous voyez le genre. Tatoué, les gros biscottos, tout ça, quoi. Est-ce que c'est un bagarreur? Oh non, il aurait les moyens, hein. Mais derrière son physique de nounours, c'est un type super doux, super gentil. Une crème de bonhomme. Pour vous dire, il joue du saxophone. C'est pas banal, hein, pour un charpentier.
Effectivement, Et donc, les gendarmes se tournent à nouveau vers son ex-femme, Patricia, avec déjà dans la tête l'idée qu'il lui est arrivé quelque chose et que peut-être on l'a tué.
Vous lui connaissez des ennemis à votre ex-mari, madame ?
Franchement ?
Oui. Oui, un gars qui s'appelle José. Quand on était jeunes mariés, il y a une vingtaine d'années, on a pas mal sympathisé avec lui et sa femme Fabienne. Ils habitaient pas loin de chez nous, à 4 km à Saint-Jean-de-Tholomé. José, il est dans l'horlogerie, en Suisse. Bref, on se voyait beaucoup. Et mon Jean-Luc, ça, je l'ai vu tout de suite, hein. Il en pensait pour Fabienne, la femme de José. D'ailleurs, il s'en cachait pas. Il est comme ça, Jean-Luc. Et elle aussi, j'ai vu tout de suite qu'elle en pensait pour lui. Elle le chauffait, elle lui mettait la main sur la cuisse, devant nous. Moi, je vous le dis tout de suite, ça me plaisait pas trop. On venait de se marier, quand même, hein. Et un jour, j'ai dit à José, ta femme, je suis sûr qu'elle couche avec mon mec. Et José, il l'a très mal pris, ça. Je le comprends, hein.
Et elle raconte ensuite qu'un jour, les deux couples ont décidé de tout mettre sur la table, tous les quatre, les yeux dans les yeux.
Et Fabienne, il a fallu qu'elle fasse des excuses, hein, auprès de José. Et auprès de moi, d'ailleurs, forcément. Et bon, on a décidé, José et moi, de leur pardonner à l'un à l'autre, de tourner la chose, de tourner la page, de passer à autre chose. Et tous les deux, Jean-Luc et Fabienne, ils ont promis d'arrêter, quoi. Et on a continué à se voir comme si de rien n'était.
D'accord. Mais tout ça, c'était il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut imaginer que José, 20 ans après, ayant gardé de la rancune pour celui qui l'avait fait cocu, vienne s'en prendre à Jean-Luc ? Moi, je veux bien. Mais c'est improbable. Sauf que juste après la réconciliation, Patricia raconte qu'il y a eu un incident le jour où José et Fabienne ont décidé de se marier.
On a été invités au mariage, bien sûr, Jean-Luc et moi. Et alors, au moment de la jarretière, Jean-Luc, il a dit « Je veux la jarretière de Fabienne, je la veux absolument. » Bon, c'était gênant pour moi. Et pour José. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui étaient là, c'était super gênant. Mais lui, il s'est pas démonté. Il est allé jusqu'au bout, il a remporté l'enchère, et il est allé chercher la jarretière de Fabienne avec ses dents sous sa robe de mariée. Et là, je me suis dit, et José aussi sans doute, hein, qu'ils avaient jamais arrêté, en fait. Qu'ils baisaient toujours ensemble, enfin plus ou moins. Qu'ils continuaient à se voir, en tout cas. Moi, j'en suis sûr. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé de divorcer. Le mec, il vous fait ça devant tout le monde, c'est pas possible, quoi. Et Fabienne et José, ils ont continué à vivre ensemble après leur mariage.
Ah oui, oui.
Juste une question, madame. À votre avis, ils se voyaient toujours 20 ans après ?
Oui, je pense. Enfin, j'en suis sûr.
Et c'est pour ça que je vous dis que s'il est arrivé quelque chose à Jean-Luc, à mon avis, José, il y est peut-être pour quelque chose.
Et les habitants de la tour, c'est pas grand, hein, 1250 habitants, confirment que Jean-Luc et Fabienne sont toujours amants.
Ah, elle allait tous les jours chez lui. Faut être aveugle pour pas s'en apercevoir.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Surtout que les gendarmes découvrent que ces derniers temps, José a écrit à Jean-Luc des messages assez fleuris. Connard! Enfoiré! Fils de pute! Et à ce moment-là, les gens du village racontent que José a commencé à leur dire des trucs inquiétants.
Ah, moi, il m'a dit un jour, je vais le buter, Jean-Luc. Il me l'a dit, hein, devant moi.
Le buter ? Décidément, ça commence à devenir une piste très intéressante. Le mari cocu qui règle son compte à l'amant de sa femme. C'est un classique. Un crime passionnel, comme on dit. Deux jours après l'ouverture de l'enquête pour disparition inquiétante, les gendarmes convoquent José et sa femme Fabienne pour les entendre. Ils ne les mettent pas en garde à vue, hein, c'est juste pour en savoir plus. Et bien entendu, ils les interrogent séparément. Et d'abord elle, Fabienne. On a couché ensemble avec Jean-Luc, mais c'était il y a 20 ans. Et encore une seule fois. Et c'est parce que Jean-Luc a beaucoup insisté, j'en reloue, vous voyez. Après, c'était un beau mec, ça, c'est vrai. Et ça ne s'est jamais renouvelé. Mais non, jamais. Je lui ai mis les points sur les i. Je lui ai dit que j'avais pas envie que ça se reproduise, et puis voilà. Qu'il restait mon ami. Mais rien de plus. Vous y croyez ? Moi, pas trop. Je connais la nature humaine. Une bite à roulette, c'est une bite à roulette à vie. Et une vicomtesse de la rage du cul est une vicomtesse de la rage du cul à vie. Je n'en connais pas qui aient trompé leur mari une fois et qui ensuite sont devenus des saintes nitous. Je n'en connais pas. Cette greluche se moque de nous et des gendarmes. Madame, nous avons étudié le téléphone portable de Thiébaut Jean-Luc. Et nous avons constaté que, encore très récemment, vous vous êtes échangé des messages, tous les deux. Mais oui, c'est vrai, ça. Mais c'était purement amical. Après, dans sa tête à lui, c'était peut-être plus, mais moi... Enfin, pour moi, c'était amical. Je voyais bien que lui, il voulait qu'on replonge. Mais il a fallu que je le calme. Moi, c'était pas du tout mon intention. Ouais, ouais. À vérifier. Et lui, José, comment est-ce qu'il se dépatouille avec tout ça face aux gendarmes ? Eh bien, lui aussi, il nous prend pour des saintes nitouches. Ouais, ma femme, elle a couché avec Jean-Luc il y a 20 ans. Et à l'époque, Fabienne me l'a avoué. Et on s'en est expliqué avec Jean-Luc et sa femme à l'époque, Patricia. Et j'ai décidé de passer l'éponge en lui disant, évidemment, c'est la dernière fois. Je lui ai pardonné. Mais ça peut arriver, des incartades dans un couple. Je sais que ça, c'est raison que la raison ignore, mais... Ça voulait pas dire qu'on s'aimait pas, Fabienne et moi. Et donc, on a décidé de tourner la page et de tout reprendre. Et depuis, bah ça va, quoi. Vous êtes en train de me dire que votre femme et Thiébaut Jean-Luc, depuis, n'ont jamais remis ça.
Exactement.
Enfin, oui, oui. J'en suis sûr. Je vais vous dire, monsieur, que nous avons des doutes là-dessus.
Ah bon?
Des gens du village nous ont rapporté que vous aviez récemment proféré des menaces à l'égard de Thiébaut Jean-Luc. Et pour être clair, des menaces de mort. Vous auriez dit « je vais le buter ».
Ah, mais c'était juste de paroles en l'air, ça. C'est rien de sérieux, franchement.
D'accord, mais sur quoi se fondaient ces paroles, monsieur ?
Ben, on s'est fâché avec Jean-Luc au mois de mai de cette année. Ma femme m'avait avoué qu'elle avait revu Jean-Luc et qu'elle le revoyait depuis le mois de février.
Ben, j'ai gueulé, c'est normal. Je me suis mis en colère, mais je ne menaçais personne. Ni lui, ni ma femme.
Donc, le type dit qu'il est certain que sa femme ne couche plus avec Jean-Luc Thiébaut, mais quand même, il y a un mois, il s'est énervé parce qu'il savait qu'il se revoyait. Il nous prend pour un jambon de Savoie, celui-là.
Après, il y a quand même un truc qui ne colle pas. Jean-Luc Thiébaut, c'est musclore. Alors que lui, José, c'est un gringalet d'1m60 et 70 kilos tout mouillé. Il n'a pas pu faire le poids ou contraindre Jean-Luc à quoi que ce soit. Et s'il n'y était pour rien, le petit José. La piste du mari cocu est séduisante, mais à ce stade, les gendarmes se disent qu'il faudrait peut-être chercher d'autres pistes. Ou peut-être pas de piste du tout. Parce que Fabienne vient de leur en apprendre une bien bonne.
Vous me dites que Jean-Luc, il a disparu. Mais il continue à m'envoyer des SMS, y compris ces derniers jours.
Donc, il serait vivant? Les gendarmes seraient en train de perdre leur temps?
Vous pouvez me les montrer, ces SMS, madame?
Oui. Tenez, regardez.
Elle n'a pas menti. Elle a bien reçu des messages de Jean-Luc depuis sa soi-disant disparition. Le 5 et le 6 juin précisément, c'est-à-dire 2 jours avant que Patricia, son ex-femme, ne commence à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles.
Bon, ah ben donc il est parti de son plein gré. C'est possible, hein?
mais c'est pas certain. Cela dit, d'autres proches ont eux aussi reçu des SMS. En revanche, personne ne lui a parlé. Et du coup, les copains ont du mal à y croire.
Oh, mais Jean-Luc, les SMS, c'est pas du tout son truc. Il préfère largement parler aux gens en direct, hein. Ou au pire, il laisse un message vocal. Mais les SMS, non.
Et l'un des propres fils de Jean-Luc, le cadet, lui aussi a un doute.
Moi aussi, j'ai reçu des SMS de papa, plusieurs. Mais je vais vous dire, c'est pas lui qui les a écrits.
Ah bon, qu'est-ce qui vous laisse penser ça, jeune homme?
Ben, mon père, il est nul en orthographe. Il fait une faute à chaque mot, normalement, et là, c'est impeccable, il n'y a pas de faute. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est au bout du fil.
Et le gamin en doute d'autant plus qu'ils ont un code avec son père. Un code que personne ne connaît, à part eux deux.
C'est un truc idiot, hein. Mais quand j'écris à mon père « chocolat », il me répond « vanille ». Ça fait des années qu'on fait ça. Et donc là, j'ai répondu à un de ses messages en disant « coucou, ça va ? Chocolat ?» Et là, il m'a répondu « oui, ça va ». Et c'est tout. Alors c'est sûr que c'est pas lui qui écrit les messages.
Alors qui ? Celui qui l'a tué, par exemple ? Et si je dis qu'il l'a tué, c'est parce que les gendarmes viennent de recevoir un appel. Les dirigeants d'une usine à 2 kilomètres de chez les Thiébaud. Ils viennent de faire une étrange découverte.
Sur le parking, là, chez nous, on a trouvé une drôle de flaque, mais une grosse flaque, hein, qui fait au moins 3 mètres de diamètre. Et franchement, on dirait du sang, hein. Vous devriez venir voir.
Et quand les gendarmes arrivent sur place, ils constatent que c'est du sang, effectivement. Et à côté, ils trouvent 2 douilles de balles, calibre 9 mm. Et aussi un tout petit bout de chair. Et des morceaux de verre, on dirait des débris d'une vitre de voiture. C'est une scène de crime. Et le labo confirme assez vite que c'est le sang de Jean-Luc Thiébaud. Il est mort. On l'a tué. Et les morts envoient très rarement des SMS. Et dans la foulée, on retrouve la voiture, la BM de Jean-Luc, à Genève, en Suisse, sur le parking d'une résidence, avec les clés sur le contact et des traces de sang dans le coffre et sur le pédalier. Et le labo confirme une fois de plus que c'est le sang de Jean-Luc. Et maintenant, je vais faire appel à votre perspicacité. Il n'y a pas un truc qui vient de faire tilt dans votre tête de Colombo du dimanche ? La Suisse ! Je vous en ai déjà parlé de la Suisse. Qui travaille en Suisse ? Eh bien, José, le mari cocu, je vous ai dit qu'il était dans l'horlogerie. Figurez-vous que son usine se trouve à 800 mètres de l'endroit où on vient de découvrir la voiture. Il n'est pas net, décidément, celui-là. D'autant que ça se confirme. Jean-Luc et Fabienne continuaient de faire crac-crac régulièrement. Les voisins racontent qu'elle venait chez lui tous les jours, entre midi et 2 heures. Une partie de jambes en l'air quotidienne. Fabienne a menti. Elle n'a jamais arrêté de le voir depuis 20 ans. Et donc les gendarmes la convoquent à nouveau.
C'est vrai que ça marchait plus trop avec José, vous savez. Bon, après 20 ans de mariage, ce sont des choses qui arrivent. Il passe beaucoup de temps à s'occuper de ses équipes de football, de sa mairie, et beaucoup plus qu'à s'occuper de moi. Il me délaisse. Et donc j'ai trouvé avec Jean-Luc du réconfort. Mais attention, je le redis, juste de l'amitié. On couchait pas ensemble avec Jean-Luc. Jean-Luc, c'était un soutien, une épaule, c'était mon confident. Et c'est pour ça que j'allais souvent déjeuner chez lui.
Mais comment la croire ? Elle a un trousseau de clés de la maison de Jean-Luc. Et chez lui, elle a ses produits de toilette, elle a une brosse à dents, elle a une robe de chambre, elle a une chemise de nuit, elle a des pantoufles. Vous en connaissez, vous, des gens qui laissent tout ça chez leurs confidents ? Eh ben non, vous n'en connaissez pas.
Et les gendarmes recueillent encore d'autres témoignages de copains qui prouvent que José était au courant.
Moi, ce que je sais, c'est qu'il fouillait tout le temps son téléphone et son ordinateur. Et que le soir, quand elle allait se coucher, il allait regarder sa culotte dans le panier à linge pour savoir s'il n'y avait pas des traces, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il savait, José. Et mieux que ça. Il les a surpris ensemble, c'était un mois avant la disparition de Jean-Luc. Il les a surpris? Ben oui, un mois avant qu'ils disparaissent, le week-end du 1er mai. Fabienne lui avait dit qu'elle allait passer le week-end dans le sud avec les enfants pour souffler. Et donc José, il l'a laissé partir, mais il s'est pointé là-bas. Et là, il a découvert que Jean-Luc était là aussi. Et donc, il a demandé à Fabienne de choisir, et Fabienne, ben, elle a choisi Jean-Luc. Devant lui. Quelle menteuse, cette Fabienne! Mais devant le gendarme, elle ne se démonte pas. Oui. Jean-Luc, il est passé me voir ce week-end-là. Mais c'est parce qu'il était de passage dans le coin. Il est juste passé me voir, c'est tout. Je voudrais bien vous croire, madame, si on n'avait pas retrouvé vos pantoufles chez monsieur Thiébault. C'est Jean-Luc qui me les a achetées pour que je me déchausse quand j'arrive chez lui, c'est tout. Et la brosse à dents? Oh ben ça, c'est parce que je me brosse les dents après chaque repas. Hein. Elle a réponse à tout. Et elle se paye notre poire. Et donc, les gendarmes se penchent sérieusement sur la téléphonie du copain José. Et figurez-vous que depuis que Jean-Luc a disparu, les deux téléphones bornent en permanence, en même temps, au même endroit. Comme s'ils étaient dans la même poche. Et le jour du crime, ils sont allés tous les deux en Suisse, ensemble. Plus de doute, José, dont je peux maintenant vous donner le nom, José Evangelista, est mêlé d'une manière ou d'une autre à la disparition de Jean-Luc Thiébault. Et sans doute à son meurtre. Alors le juge le met en examen pour assassinat et il l'envoie au Newf. Et je peux vous dire que ça fait un peu de bruit parce que José Evangelista est conseiller municipal de sa commune de Saint-Jean-de-Tholomé. Mais vous noterez qu'on n'a toujours pas de corps. Alors, les gendarmes vont chez José Evangelista avec un chien. Un chien renifleur de cadavres. Et le chien se met immédiatement à frétiller de la queue. Et il prend la direction d'un bois tout à côté de chez Evangelista. Et au bout de 300 mètres, il s'arrête. À l'endroit où le clébard s'est arrêté, il y a un tout petit bout de tissu qui dépasse. Les gendarmes se mettent à creuser pas longtemps. Et à peu près 70 cm de profondeur, ils tombent sur le cadavre de Jean-Luc Thiébault. Et l'autopsie confirme qu'il a été abattu de 2 balles de 9 mm. Interrogé par le juge d'instruction, José Evangelista ne craque pas. Il n'a pas tué Jean-Luc. Et si on l'a trouvé près de chez lui, dans le bois, c'est par hasard. Et je vous le dis tout de suite, pendant toute l'instruction, il va s'entêter à nier les évidences. Voilà sans doute ce qui s'est passé. José a amené son copain Jean-Luc, sur un prétexte qui reste à éclaircir, sur le parking de cette usine où on a retrouvé la mare de sang. Il l'a abattu, il a mis le corps dans le coffre et il est allé l'enterrer dans la forêt près de chez lui. Et après, il s'est débarrassé de la BM en Suisse. Et ensuite, il a utilisé le portable de Jean-Luc pour faire croire qu'il était vivant. Voilà, il a fait tout ça par jalousie. Le procès de José Evangelista s'ouvre en novembre 2016 devant la cour d'assises d'Annecy. Lui, José, assez vainement, nie tout en bloc. C'est pas moi qui l'ai tué. Je vous dis que c'est pas moi.
Et sa femme Fabienne s'évertue elle aussi à nier les évidences.
Jean-Luc, c'était mon ami. C'était mon confident. Mais c'était pas mon amant, pas du tout.
Mais le dossier d'enquête est accablant. Alors l'avocat de José, maître Dufour, fait
ce qu'il peut.
Regardez mon client. Regardez-le. Il est tout petit. Il est tout maigre. Et la victime était un gaillard. Il n'a pas pu commettre ce crime tout seul. Il y a une piste qui n'a jamais été explorée. La piste d'un complice. Mon client est peut-être là sur les lieux du crime, mais il y a un autre homme. Et peut-être que c'est cet autre homme qui tue.
L'avocat général réclame 25 ans de prison et la cour condamne finalement José Evangelista à 20 ans. Assez logiquement, puisqu'il nie, il fait appel. Deuxième procès en février 2018 à Chambéry. Et il nie encore.
On m'accuse d'un meurtre que j'ai pas commis. Monsieur Evangelista, reconnaissez-vous néanmoins que vous étiez très jaloux de votre femme et de la relation qu'elle entretenait, et que votre couple était en difficulté?
J'ai toujours été jaloux. C'est comme dans tous les couples, il y a des hauts, des bas. Moi, j'ai jamais vu des couples qui s'engueulent pas. Les disputes, ça pouvait aller d'une chaise mal placée à un steak qui était trop cuit, mais moi, je l'aime, Fabienne. Et je l'aimerai toujours, et de toute façon, c'est pas moi qui ai tué Jean-Luc. J'étais en colère contre lui, mais pas au point de vouloir sa mort.
Vous seriez donc victime d'un coup monté, monsieur Evangelista?
Ben oui. Il y a plein d'autres personnes qui auraient pu faire ça. Peut-être son ex-belle-famille, peut-être son ex-femme, peut-être son ex-belle-sœur.
Mais vous avez des éléments qui puissent étayer ces soupçons?
Ben non. Moi, je fais comme tout le monde. Je vais loin dans les hypothèses.
Et il a eu tort de faire appel. Parce que cette fois, il prend 3 ans de plus, 23 ans de réclusion criminelle. Et ses avocats annoncent qu'il va continuer à se battre pour faire valoir son innocence.
Je vais débriefer cette histoire avec vous, maître Annabelle Iglesias. Vous êtes avocate au barreau d'Aix-en-Provence et dans ce dossier, vous étiez l'avocate de la sœur de Jean-Luc Thiébaut, donc avocate de la partie civile. 20 ans au premier procès, 23 ans en appel alors que José Evangelista encourait la perpétuité. Est-ce que vous pensez que dans ce verdict, on prend un peu en compte la fameuse tolérance pour les crimes passionnels?
Ah non, là on n'a pas du tout pris en compte, là, non, puisque le comportement et le caractère de José a joué en sa défaveur, donc on pouvait pas. S'il avait reconnu les faits, on aurait pu envisager une peine différente. Mais là, vu son comportement et vu la manière dont il s'est exprimé, c'était, il n'y a pas eu de, non, pas du tout.
Parce que c'est un de ces crimes qu'on a un petit peu de mal à juger, parce qu'au fond, en nous, chacun a dans l'idée que la jalousie, la blessure, la flétrissure de la tromperie peuvent amener n'importe qui à commettre l'irréparable.
Oui, à mon avis, c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que chacun peut s'identifier à cette histoire, comme vous l'avez dit au départ. Mais c'est vrai que comme on n'a pas eu de réponse à nos questions et comme il niait les faits, et en fait on est parti sans savoir ce qui s'était passé et lui n'avait rien fait et Fabienne le défendait à chaque fois et minimisait la relation qu'elle avait avec Jean-Luc. Donc en fait on est parti sans savoir ce qui s'était vraiment passé, on le saura jamais maintenant.
Donc au fond il s'est privé de bénéficier de l'excuse du crime passionnel par son comportement, quoi.
Bah, il n'était pas aimable, en fait. Hein. Il n'était pas super sympa. À la première audience, il est resté très sec, très froid, très distant. À la deuxième audience, il a essayé d'être un petit peu plus dans l'émotion. Il a pleuré de temps en temps et il a essayé de nous faire partager certaines émotions. Mais c'est vrai que ça passait pas. Il était froid, il était distant, il était sur sa position et il changeait pas de positionnement. Donc en fait, moi je pense qu'il est coincé dans son mensonge. Donc pour le coup, il peut pas dire la vérité.
À votre avis, le sentiment que vous avez, parce que si vous en avez parlé avec lui, d'abord avant le procès, vous n'en aviez pas le droit, mais depuis vous avez pu, il a forcé son avocat à aller sur cette ligne de défense un peu suicidaire?
Je pense pas, parce qu'en fait, nous, en tant qu'avocats, on est là pour accompagner notre client. C'est vrai que de temps en temps, on peut leur dire qu'il vaut mieux avouer les faits, mais si on force pas un avocat, en fait, pour le coup, l'avocat, à mon avis, était convaincu de son innocence, puisqu'on en avait discuté avec Maître Cormier, et pour Maître Cormier, il y avait plein d'éléments qui pouvaient laisser douter et que c'était pas lui, en fait. Donc, non, Maître Cormier, je pense que personne ne peut le forcer à faire quoi que ce soit.
Non.
Il était convaincu de l'innocence de son client.
Alors, on a évoqué donc ce refus de José Evangelista de reconnaître qu'il a tué Jean-Luc, et donc cette impossibilité dans laquelle il se trouve de plaider que c'était un crime passionnel. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que ce type, au point où il en est, qui risque de partir pour perpétuité, n'est pas capable de se déballonner devant la cour d'assises et de dire « oui, d'accord, c'est moi ».
En fait, il faut s'imaginer, il faut l'imaginer dans le box. Et en face de lui, du moins sur le côté, il y a ses enfants, sa femme, sa belle-famille, sa famille. Et face à toute votre famille, à le poids du regard de votre famille, quand vous avez commencé à dire que c'était pas vous et que vous êtes innocent, je le vois mal et je le voyais mal avouer devant ses enfants qui étaient là au premier rang tous les jours, dire bah oui c'est vrai, c'est moi qui l'ai tué. Donc je pense que vis-à-vis de ses enfants, il a pas eu le courage ni la force de le dire, et il est resté bloqué. Et puis il y avait Fabienne, il y avait les parents de Fabienne. Je veux dire, c'était, à mon avis, c'était impossible pour lui. Ouais, je pense. Et puis une question aussi, depuis le début, il disait que c'était pas lui, et franchement, c'était pas facile, parce que peut-être s'il y avait pas eu si ça avait été à huis clos, s'il y avait eu personne, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de se livrer, de dire voilà, c'est moi, je le regrette, je suis désolée. Mais là, quand vous avez vos enfants au premier rang, eh ben c'est dur, je pense. Il a pas osé, il a pas eu le courage. Il a pas eu le courage.
D'autant plus que il commet tout un tas d'erreurs, c'est-à-dire que je ne sais pas si une minute il a imaginé qu'il avait fait le crime parfait, mais il s'est planté d'un bout à l'autre. Il n'écoute pas assez On de la Traconte, il regarde pas assez les séries policières à la télé. Il se fait avoir par son portable, ce qui est quand même d'une immense naïveté. Il sait bien que avoir le portable de l'accusé dans la poche, on en parle dans tous les numéros des experts sur TF1, c'est signer qu'on s'est déplacé d'un point A à un point B. Donc s'il a le portable de la victime dans la poche, on va vite lui tomber dessus, il peut s'en douter de ça.
Oui, non, en fait, oui, il y a eu le portable, il y a eu le corps qu'on a retrouvé à 300 mètres de chez lui. Oui. Il y a eu du sang sur ses bottes, la voiture. Oui, c'est vrai que pour le coup, puis le téléphone a borné à chaque fois qu'il s'est déplacé en Suisse ou qu'il a été en Carcassonne, à Carcassonne, rejoindre Fabienne pour son anniversaire. Là aussi, le téléphone a borné. C'est vrai que le téléphone a borné plusieurs semaines. Et puis José ne faisait pas de faute d'orthographe, donc pour le coup, on s'imagine que c'est bien lui qui a écrit les SMS, puisque Jean-Luc en faisait.
C'est stupéfiant, oui, ça, de voir que plus les séries télévisées ou les émissions comme la mienne racontent les erreurs, lorsqu'on se retrouve à vouloir tuer quelqu'un, on fait tous les mêmes erreurs. Ils font tous les mêmes erreurs.
Pour le coup, il en a fait pas mal. Et c'est vrai qu'on a retrouvé la puce dans sa voiture, même s'il dit que c'est pas lui, que c'était un des enfants du foot qui a dû la laisser là. Pour le coup, on a du mal à y croire.
Alors Fabienne, parlons de Fabienne. J'avoue qu'à un moment de mon histoire, quand je l'ai écrite, là, à partir du texte que Thomas Audouard m'a donné, je me suis dit, elle n'est pas nette, Fabienne. Est-ce qu'elle savait, selon vous, que José avait tué Jean-Luc ?
Non, je pense pas.
Elle sait pas ?
Non. Au début, nous aussi, ça nous a effleuré. On s'est dit qu'elle était peut-être de connivence. Mais je pense pas. Non, je pense qu'elle le savait pas, parce que quand on a lu les déclarations qu'elle a faites au début de sa, quand elle a été entendue les premières fois, si elle avait su que c'était son mari, elle aurait pas un petit peu enfoncé. Parce qu'au début, elle l'a un peu enfoncé dans ses premières auditions.
Oui.
Et quand on recherchait Jean-Luc. Et pour le coup, elle a dit certaines choses qui se sont retournées ensuite par la suite sur José. Donc pour le coup, non, elle le savait pas.
Et pourquoi est-ce qu'elle s'entête à dire qu'elle n'était pas la maîtresse de Jean-Luc?
Parce que c'est pareil, elle est mariée depuis 35 ans avec José, elle a eu une relation extra-conjugale juste avant de se marier avec Jean-Luc,
oui.
Et tout le monde savait qu'elle retournait voir Jean-Luc pour déjeuner le midi, qu'elle passait beaucoup de temps avec lui. Donc c'est pareil, devant son mari qui est là en train de dire « non, je l'ai pas tué », ses enfants derrière et sa famille, dire « oui, j'étais avec Jean-Luc et j'avais même prévu de m'installer avec lui en septembre », C'était impossible, donc forcément, elle s'est bornée à dire non, on était juste amis, il se passait rien, on déjeunait ensemble, c'était un ami, un confident, c'est tout.
Mais c'est pareil, elle n'est pas très psychologue.
En fait, c'est pareil, c'était pas crédible.
Ouais, c'était pas crédible, elle aurait dû comprendre que, puisque tout le village était au courant, c'était absolument vain de nier l'existence de cette relation. Et puis on n'est pas en 1960, nom de Dieu. Elle est devant la cour d'assises en 2014 et 2016, on peut quand même reconnaître qu'on trompe son mari devant tout le monde.
Ah bah non, là elle s'est bornée à dire que c'était pas vrai, et c'était peut-être juste embrassé, mais c'est tout. Non, il y avait rien. Pour elle, il y avait rien du tout.
Ouais. Le coup des chaussons, il m'a acheté les chaussons, c'est juste pour que je salisse pas chez lui.
Ouais. Et une robe de chambre aussi, une brosse à dents. Hein. Elle avait une robe de chambre chez lui aussi.
Ouais. Et alors, au procès, elle est là, dans son camp, dans le camp de José.
Exact.
Qui a donc tué, on peut dire, l'amour de sa vie.
Ça ressort pas. Je pense que c'était l'amour de Jean-Luc, peut-être l'amour de la vie de Jean-Luc, mais pas le sien. Je pense pas. Elle était assez froide, non. Jean-Luc, oui, devait être très amoureux de cette femme, ça c'est sûr. Mais elle, non, je pense pas. Mmh. Non, sinon elle l'a bien caché.
Alors ça nous amène à parler de Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, c'est un mari infidèle, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Le sujet n'est pas là.
Je pense pas que Jean-Luc était infidèle. Hein.
Non. Ah bon ?
Non, il n'était pas. Non, il était amoureux. Non, parce qu'en fait, pour le coup, c'est ce qu'elle a voulu faire croire Fabienne à l'audience en disant que c'était un homme à femme et qu'il était tout le temps entouré de femmes. Mmh. Mais quand il était marié avec sa première épouse, il n'était pas infidèle. Non, c'est pas ressorti du procès. Hein. Non, c'est juste que il était toujours amoureux de Fabienne, peut-être. Mais je veux dire, c'était voilà, il y avait Fabienne dans leur couple depuis le début, qui avait été là. Mais c'était pas un homme pour sa première épouse et la mère de ses enfants, non.
Alors, c'était pas Jean-Luc, il est amoureux de Fabienne. Donc lui, il a divorcé de Patricia pour se rendre disponible. Mmh. Fabienne, elle peut pas se rendre disponible, elle peut pas divorcer, c'est tellement simple, plutôt que laisser son mari aller tuer son amant.
C'est vrai, mais pour elle, non, ça l'était pas. À mon avis, il y a les enfants qui devaient être jeunes, il y a la maison, il y a son agence de voyage, je pense que, puis peut-être qu'elle avait peur un peu de José et de sa réaction, donc je pense que, non, elle avait pas forcément eu envie, elle allait déménager, elle allait peut-être venir vivre chez Jean-Luc en septembre, c'est ce qui ressort des débats. Mais divorcée, elle l'avait envisagé, mais je pense qu'elle n'était pas encore prête.
Vous défendiez, par exemple, vous, les intérêts de la sœur de Jean-Luc. Elle savait, elle, la réalité de cette relation extra-conjugale?
Non, parce qu'elle, elle habite sur Aix-en-Provence. Donc, pour le coup, non, elle, non. Mais tout ce qui est ceux qui habitaient dans la région ou qui parlaient très, très souvent à Jean-Luc, oui.
Merci beaucoup, Anna-Belén Iglesias, du barreau d'Aix-en-Provence, d'avoir débriefé cette histoire avec moi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.